Philippe Solers, quand vous publiez un livre qui s'appelle Mystérieux Mozart, on s'attend à des tas de choses. On se dit, bon, si Solers s'intéresse à Mozart, c'est que, d'ailleurs, on vous a souvent accueilli comme ça dans les émissions où vous êtes passé, c'est que vous allez insister sur le côté, disons, post-formanien, en gros, de Mozart, sur le côté faunesque, Mozart amoureux, Mozart un peu scato, Mozart, etc., qui aime les femmes.
Scatolique, oui.
Oui, scatolique, c'est pas mal, c'est intéressant. Et alors, c'est vrai quand même, c'est vrai un peu, mais pas trop.
Et l'essentiel n'est pas là.
Oui, mais quand même. Enfin, je veux dire, bon, prenons par exemple, après tout, parce qu'il faut en parler, puis ça vous amuse beaucoup, vous y consacrez un chapitre entier. Bon, c'est vrai que on a pendant un certain temps une image de Mozart aseptisé, le petit marquis, etc. Bon, mais ça, c'est quand même 30 ou 40 ans, c'est plus le cas. Alors, vous insistez beaucoup sur cet être scatologique à sa petite cousine.
Bien sûr.
Que vous citez d'ailleurs, on pourrait en citer même à France Musique, puisque c'est de Mozart, on a le droit de les citer.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, en fait ?
J'en pense que Mozart est quelqu'un de très libre, qu'on a toujours tendance à réenfermer dans des clichés à cause du fait que sa liberté est très gênante. Il a passé sa vie à se libérer de tout, de tous les préjugés et de tout ce qu'on voulait lui faire faire sans qu'il ait envie de le faire. Et donc, c'est l'histoire d'une libération continue, de plus en plus forte. Alors il est libre très tôt, parce que d'abord c'est un enfant qui est virtuose, alors il est enfermé par sa famille, dont son père le surveille. Donc il est très, là, les lettres à la petite cousine sont extrêmement importantes, pas seulement parce qu'il y a l'aspect scatologique sur lequel tout le monde, en effet, s'est appesanti. C'est d'ailleurs drôle que ces lettres aient été conservées. La petite cousine les a données à Constance, la femme de Mozart, qui les a trouvées amusantes, comme... Et ensuite, ses fils, il a eu deux fils, quand même aurait pu les détruire, etc. Donc elles sont arrivées jusqu'à nous, jusqu'à Stefan Zweig, qui les a envoyées à Freud, et Freud n'en a rien fait. Il faut dire que Freud n'a... Alors que là, il y a une analyse, évidemment, du génie précoce de Mozart qui aurait pu l'intéresser. De même, on peut s'étonner qu'à Vienne, à la fin du XIXe siècle, Freud n'ait pas vu qu'il y avait dans les opéras de Mozart, au début du XXe siècle, dans les opéras de Mozart, tout ce qu'il fallait pour aller plus loin dans sa propre théorie.
Il était un peu sourd. Ouais.
En tout cas, il fait sa découverte parce qu'il n'écoute pas de musique.
Oui, la musique, c'était pas son truc.
Bon, enfin, ça, c'est une autre question. Mais là, c'est très libre. Alors, il n'y a pas que les éléments scatologiques, il y a les jeux de mots.
Voilà. Alors, 5 novembre 77, « Ah, mon cul me brûle comme du feu, que signifie donc cela? Peut-être une crotte veut-elle sortir? Oui, oui, crotte, je te connais, je te vois, je te sens, est-ce possible, Dieu, oreille ne me trompe pas. » Aujourd'hui,
l'oreille ne me trompe pas.
Voilà. Voilà, je vous embrasse 10 000 fois, je suis le vieux jeune queue de cochon, etc.
Ici une trace d'homme, souvent, n'est-ce pas?
Ici une trace d'homme, alors ce qu'est Mozart aussi, en verlan.
Est-ce que vous avez le spunicunifé? Il y a un code entre eux.
Spunicunifé,
voilà. Oui. Donc tout ça est très intéressant, il y a un code entre eux.
Et vous dites que les Mozart, de toute façon, s'écrivent des choses bizarres, ainsi Anna Maria, la mère à Léopold le père, adieu ben mio, porte-toi bien, étire ton cul jusqu'à la bouche, je te souhaite bonne nuit, pète au lit que ça craque. Il est 1 heure passée, tu peux toi-même faire la rime.
C'est pas du tout bizarre. Hein.
Oui, alors, je voudrais savoir, vous qui connaissez, vous deux d'ailleurs, Ding Dong, vous qui connaissez quand même bien, effectivement, Philippe, vous êtes désormais extrêmement installé, disons, dans le 18e, non pas arrondissement, mais dans le 18e siècle, vous connaissez bien les lettres de cette époque, les lettres. Est-ce qu'on avait l'habitude, dans les lettres, d'écrire finalement, parce qu'on ne se téléphonait pas aujourd'hui, on dirait des bêtises pareilles au téléphone, on joue à pipi-caca avec ses petits cousins au téléphone, mais est-ce qu'à l'époque, vraiment, ça s'écrivait, ou est-ce que l'écriture était quand même déjà quelque chose sous contrôle, enfin, moral ou sous contrôle?
L'écriture a toujours été sous contrôle, nous avons affaire là à des lettres intimes, de Madame Mozart à son mari Léopold, de Mozart à sa petite cousine, etc. Et surtout, c'est très étonnant que ces documents aient été conservés. Je vous dirais simplement que nous avons publié dans une revue, il y a déjà un certain temps, la traduction des lettres obscènes, alors de Joyce, James Joyce à sa femme, n'est-ce pas, Nora. Eh bien, son petit-fils a déclaré, si j'avais su que grand-père écrivait des choses comme ça à grand-mère, j'aurais tout brûlé. Donc, ce qui est très étonnant, ça n'est pas que ça ait pu... être écrit, intimement. Bon, sinon, vous avez des correspondances publiques, là, évidemment. Elles sont détruites. Beaucoup de lettres sont détruites.
À 18 ans, on se dit que c'est un peu bizarre, parce que quand même, les lettres à la cousine, je trouve que c'est quand même plutôt enfantin. Alors, peut-être que Mozart, comme beaucoup de génies, Il y a des aspects, vous savez, il y a chez les êtres, les aspects différents de la personnalité se développent à un rythme différent. Il y a des gens absolument géniaux qui, effectivement, résolvent, je ne sais pas quoi, les problèmes mathématiques les plus complexes et inventent sur les ordinateurs des choses folles, et qui, à 18 ans, restent relationnellement un peu des gamins.
C'est
bizarre à 18 ans de dire ça, quand
même. C'est juste avec elle.
C'est un truc de touche-pipi, quand même, c'est un truc qu'on perd
justement
plutôt à 7-8 ans.
Attendez, mais oui, mais non.
Ni les hommes, là.
On peut faire ça. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il est... C'est que ce soit elle et pas n'importe qui.
Ouais.
C'est elle, c'est-à-dire la fille du frère de son père. Voilà. Elle s'appelle Mozart. Hein. Donc c'est comme sa sœur, d'une certaine façon, une sorte de sœur.
Et sa cousine. Voilà.
Donc on ne peut pas dire que Mozart ait passé son temps à écrire de ce genre de lettres.
Non.
D'autant plus qu'il y en a d'autres.
Elles sont quand même très très minoritaires dans les voilà. milliers de lettres de Mozart.
Et en plus, l'époque était moins pudibonde.
Oui, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que à l'époque, on écrivait facilement des choses pareilles?
Eh bien, je pense que l'époque était beaucoup moins pudibonde que la nôtre, ne fût-ce qu'au XVIIe aussi, enfin XVIIIe. Le XIXe siècle est devenu très pudibond. Et maintenant, nous sommes extraordinairement exhibitionnistes sexuellement et pas forcément dans le coup. Pas forcément dans le coup. Alors qu'au XVIIIe, là, il me semble qu'il y a un savoir-faire quoi, qui s'entend chez Mozart. Voilà.
Annie Paradis. Ah,
oui. Non, simplement au sujet de ces fameuses lettres. D'abord, c'est tout à fait naturel d'écrire comme ça au XVIIIe siècle, parce qu'on parle du corps. Mais on comprend qu'on parle du corps, ils meurent, ils ont une maladie, on peut être mort du jour au lendemain, parler de son corps et parler du corps qui fonctionne, c'est-à-dire qui chie, du corps, voilà, ben c'est un signe de bonne santé. Les lettres de Mozart, elles sont aussi un signe de bonne santé. Moi, je les aime beaucoup, ces lettres. En plus, il y a une... je trouve... La cousinette.
Elles sont très énergétiques,
oui. Si vous voulez, oui. Et en plus, la cousinette, ben voilà, il va s'initier avec la cousinette. On s'initie toujours avec sa cousine. Vous n'avez pas eu une cousine, vous, avec qui vous avez fait des choses.
Bien sûr. Bon. Il y a des biographes qui se disent, on se demande si la petite cousine de Mozart a été sa première maîtresse. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils entendent par maîtresse. Enfin, moi, ça me semble évident qu'ils ne sont pas restés inactifs.
Et en plus, ces lettres, vous dites, c'était lors d'intimité. Ben non, justement, c'est ça qui est intéressant. Peut-être pas celle-là, mais en tout cas, en général, les lettres, elles étaient lues par les destinataires, mais après, elles étaient lues autour, elles étaient lues aux amis pour donner des nouvelles aussi. Donc, c'était aussi une écriture qui n'est pas seulement de l'ordre du privé, mais de l'ordre du public. Ça change tout aussi. Je veux dire, ça explique aussi pourquoi...
De l'amusement.
De l'amusement, pas que ça. Parce qu'à l'époque, la lettre, bon, même aujourd'hui, recevoir une lettre, c'est quand même un luxe incroyable.
Sur des lettres humoristiques, il faut le souligner souvent.
Il y a
beaucoup d'humour.
Alors, je voudrais qu'on oublie un instant ces lettres. Merci de vos opinions. Mais après avoir parlé de la petite cousine de Mozart, parlez de sa mère. Parce qu'il y a un épisode, évidemment, qui est toujours intéressant, qui fait partie des mystères du mystérieux Mozart. C'est ce fameux deuxième voyage à Paris, qui est un voyage qui se passe bien sûr très mal, qui est épouvantable. Mozart avait accueilli Paris tout petit et lui avait fait fête, et maintenant plus personne ne s'intéresse à lui, enfin on connaît, etc. Et il y a la mort de sa mère. Alors on a beaucoup écrit, on a même beaucoup psychanalysé sur le sujet, parce que c'est très étonnant que dans sa correspondance, Mozart qui écrivait tout, qui racontait tout à Léopold, à son père, en fait non seulement lui parle pas de la mort de sa mère, mais le jour même où sa mère meurt, je crois qu'il raconte qu'il a mangé une glace ou quelque chose comme ça,
au
Palais Royal. Et ensuite, il met du temps, et finalement, il va faire une lettre que vous ne citez pas là, mais qui est assez impressionnante, où il s'adresse à son père sur un ton très très noble, type opéra seria, un petit peu d'ailleurs comme la lettre qu'il écrira à son père mourant. Parle-t-on, est-ce une indifférence, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire?
L'affaire est assez compliquée. Je crois que Mozart ne rêvait que d'une seule chose, c'est de se débarrasser, en effet, de ses parents. Parce qu'il en avait assez, à l'âge de 22 ans, d'être de la poule aux œufs d'or, le virtuose, qui devait absolument faire vivre toute la famille un jour. Donc, il était, sa mère venant avec lui à Paris, c'est pour le surveiller, d'une certaine façon. Parce qu'il a commencé à s'enthousiasmer pour Aloysia Weber, et que, brusquement, ce garçon, il voudrait quitter la famille, aller partir avec une jeune fille de 17 ans, s'installer en Italie avec elle, et puis, alors, il échapperait au contrôle familial. Donc, les Mozart sont une famille épatante. Léopold est un très bon musicien, mais enfin, ils veulent vivre aux dépens de ce virtuose de génial. Alors ça ne va pas du tout, justement. Il n'a pas de commande, on ne le paye pas à Paris. C'est dramatique, il est très mal reçu. Il y a des documents ahurissants. La duchesse de Chabot, par exemple, qui méritera probablement la guillotine plus tard, enfin, qui le fait attendre dans le froid pendant une heure. Alors il demande on ne pourrait pas quand même le mettre dans un endroit un peu plus chauffé parce que ses doigts sont gelés. Non, vous allez jouer là-dessus, un piano forte est complètement pourri. Enfin bon, c'est effrayant, la vie de Mozart à Paris en 1778. Sa mère meurt, et en effet, là, il découvre, là, il écrit quelque chose de très confidentiel, parce que c'est à la musique qu'il confie ce qu'il pense vraiment. Mais sur le plan social, en effet, il y a une sorte de réserve très pudique, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, bien entendu, et donc, sans quoi il n'écrit pas cette musique. Et donc, il sent que c'est lui, désormais, qui est vraiment le chef de famille, qu'il va falloir ruser, qu'il va falloir prendre de la hauteur, donc la lettre à son père et à sa sœur, c'est là qu'il commence à être alors complètement seul. Et puis, c'est ce que j'appelle l'histoire d'une liberté, et puis après, il va être encore plus seul quand il va décider de rompre avec Colloredo, de se marier, etc. Donc, c'est tout ça. Cet épisode, eh ben non, c'est-à-dire, il est très croyant, hein, catholique, Mozart. Il y a un témoignage. Donc, écoutez, la vie, eh ben, il faut plaindre ceux qui restent et ne pas plaindre ceux qui meurent, et parce que Dieu les reçoit, puis voilà. Donc, il expédie ça de façon assez désinvolte. Et il confie au piano sa souffrance, enfin, le drame qu'il a vécu. La mère de Mozart est enterrée dans les sous-sols de Paris. Elle a été enterrée à Saint-Eustache. Il a fallu attendre 1953, tenez-vous bien, pour qu'on mette une petite plaque dans l'église Saint-Eustache. Donc, vous voyez, 1778-1953, et bien les restes d'Anna Maria Mozart se baladent comme ça dans les sous-sols de Paris. Personne n'y a fait attention. Ce qui est curieux, c'est que de même qu'elle n'a pas de tombe, Mozart, lui non plus, n'en a pas. Alors que les autres ont des tombes très, très bien aménagées avec leur nom, le père, Constance, qui est devenue Constance Thyssen, vous avez ça. Alors, la mère a disparu dans le sous-sol de Paris, et lui, il a disparu quelque part dans une fosse communautaire au cimetière Saint-Marc, aux environs de Vienne. Ce sont deux destinées assez étranges, donc qu'on disparaisse comme ça sans laisser trace, le corps. Yannick ?
Oui, donc je vais dire un mot au sujet d'Anna Maria Mozart, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Oui. Et cette femme modeste qui s'est retrouvée à Paris complètement isolée et complètement loin de chez elle. Et au sujet de sa mort, justement, je crois que Mozart, il y a quelque chose dans une lettre qui m'avait frappée. Il dit, en parlant à son père, la mort de sa mère, vous savez que j'avais voulu, enfin je cite comme ça de mémoire, vous savez que j'avais voulu toujours voir mourir quelqu'un et il fallait que la première personne que je vois mourir, ce soit ma mère. Et bon, j'ai ce rapport-là aussi, cette expérience qu'il fait, c'est-à-dire que se confronter vraiment avec la mort. Et moi, ça me fait penser à Don Giovanni, simplement à la mort du commandeur, oui. Vous savez, qui est tellement belle, tellement, justement, qui est de l'ordre de, comment dirais-je, de l'étreinte.
Absolument, je le dis.
De la douceur, de la... Oui, voilà. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait Don Giovanni, justement? Il regarde mourir quelqu'un. Quand on regarde mourir quelqu'un, on se regarde mourir un peu soi.
Mais ça, la mort et Mozart, c'est un sujet presque... Alors, il faudrait y rester longtemps. Il faut souligner une chose, c'est que mort, en allemand, c'est masculin. Oui. Der Tod. Quand nous disons la mort. Quand les révolutionnaires disaient la liberté ou la mort, il y a deux féminins. En allemand, ça ne passe pas, c'est masculin. C'est pour ça que quand il écrit à son père, qui est très malade et qui va mourir, et puis il y a une allusion maçonnique très très claire, quand il lui dit « Bon, vous me comprenez, mais il faut plaindre donc ceux qui restent et non pas... Alors si jamais vous deviez mourir, il y a longtemps que je vous préviens qu'il y a longtemps que je me suis familiarisé avec l'idée de la mort, Der Tod, hein, qui est le meilleur ami de l'homme. Le, pas là. C'est intéressant. Et donc, ensuite, vous avez ça, évidemment, dans La Flûte enchantée, voilà, tout le symbolisme de la mort et de la renaissance, oui, etc. C'est très important chez lui.
Alors, vous parlez de cette... Vous dites que la meilleure manière, évidemment, la meilleure expression c'est sa musique. À ce moment-là, vous parlez de la sonate Köchel 310, effectivement, en la mineure. Je crois qu'on n'est pas très sûr qu'il l'ait composée à ce moment-là, mais enfin, autant l'imaginer. Et là, vous dites là tout de suite, c'est l'attaque, la contre-attaque, la prise à bras-le-corps du destin, la réponse à la foudre. Vous savez que le fait de lier quand même à ce point l'œuvre à la biographie est un peu démodé. Je veux dire que ça ne se fait plus.
Ça ne se fait plus parce que plus personne n'a une vie vraiment intéressante, mais Mozart a une vie très intéressante.